Je sais que vous aimez les histoires de bijoux. Alors aujourd'hui, je vous propose, juste après avoir écouté ce podcast, d'aller sur un autre podcast, La Voix des bijoux. C'est le tout nouveau podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Il se présente en saison de 4 histoires, en version française comme en anglais. Et rien que dans la première saison, on y évoque le collier de Jeanne Dubarry comme les grilles de mariage de Rihanna. Je suis sûre que vous pensez comme moi. Des podcasts de bijoux, il n'y en aura jamais assez. Alors, pour écouter La Voix des bijoux, c'est sur le site de l'École des Arts Joailliers et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous le reconnaîtrez facilement sur votre application préférée, car la vignette, c'est la broche Ruby Lips de Salvador Dali reproduite par Henri Caxton. Alors, à vos écouteurs. Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Thierry Vendôme. Alors évidemment, il y a une infinité de choses dont je voudrais qu'on discute avec Thierry. Alors on a décidé de ne parler que d'une chose, les épées. Les épées d'académiciens qui ont été réalisées par Thierry Vendôme. Bonjour Thierry.
Bonjour Anne.
Dis-moi Thierry, réaliser une épée d'académicien, pour un joaillier, c'est quand même le Graal, non ?
Oui, parce qu'en fait, c'est une pièce hyper technique, compliquée. Il ne faut pas se louper parce qu'en fait, c'est pour une personne assez exceptionnelle, pour un monde exceptionnel, parce que c'est le monde de l'Académie française. C'est l'image du joaillier qui est mis en jeu quand même, pour vraiment la pièce d'exception dans notre profession, oui.
Justement, tu viens de l'aborder, une épée d'académicien, ce n'est pas seulement une épée. Ça doit représenter l'académicien. Donc, chaque épée est différente et donc, elle ne doit pas être seulement une création hyper géniale du joaillier, elle doit être en plus une création qui raconte toute l'histoire de l'académicien.
C'est ça, oui. En fait, l'académicien, il met tous ses symboles, tous ses moments forts de sa vie, tout ce qu'il a envie d'exprimer se retrouve lisible sur l'épée, mais en gardant le style du créateur joaillier, bien sûr. Ça, c'est important.
Alors, ta première épée, c'était quand ?
Ah, ma première épée date de 1996. C'était totalement inattendu pour moi, car j'avais glissé un de mes dessins dans les dizaines de dessins que mon père avait présentés à l'académicien. Le jour où l'académicien est venu au magasin pour choisir son choix de dessin, moi, j'étais en Normandie, j'étais en vacances à cette période-là. Et en fait, il a choisi mon dessin sur la dizaine de dessins de mon père. Et mon père m'appelle, me dit, écoute, c'est toi qui vas réaliser l'épée parce qu'il a choisi ton projet. Et je suis revenu à l'établi et j'étais très heureux parce que ça allait être ma première épée. Bon, c'est formidable. Mon père en a réalisé 9. Hein. Ce n'était pas non plus une nouveauté pour lui, il savait ce que c'était. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'unique à l'époque. Il avait choisi mon épée. Jacques Dupaquier, parce que j'avais mis sur la garde un J et un D qui étaient très visibles, en fait. Ça a été le choix de l'académicien. Et à partir de ça, j'ai réalisé donc, les différents symboles qu'il souhaitait.
Le J et le D, c'est la manière dont avait décoré la garde.
Voilà.
Où on voyait le J
exactement.
Et le D avec un arrondi, comme si tu avais fait un trait de peinture, mais en métal.
Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est vrai, il y a un côté un peu dynamique dans les lettres. Et ça lui a plu.
Et on était en quelle année ?
En 1996. Je sais qu'aujourd'hui, je ne ferai plus ce type de design. Ça, quand même, il y a 30 ans maintenant. Aujourd'hui, j'ai un travail qui est sur un jeu de matière, de brutalité. Et à l'époque, c'était plus dans une esthétique design. En fait, on était très, très design, voilà.
Alors justement, dévoile-nous tous les symboles que tu as placés dans cette épée qui ont été traduits par ta créativité.
Alors, il y a en premier symbole les armoiries de famille, donc je les ai placées. J'ai passé aussi un acte de courage qu'il avait eu à l'époque, le 11 novembre 1940. Les étudiants ont défilé face aux nazis en entonnant la Marseillaise. C'est une histoire assez incroyable. Donc, il y a eu plusieurs centaines d'étudiants qui sont trouvés au pied de l'Arc de Triomphe en entonnant la Marseillaise. C'est un truc complètement dingue. Il y a un risque énorme. Et donc, il souhaitait que ça soit représenté parce que lui-même faisait partie des étudiants. Ensuite, il y a eu en troisième symbole la région du Vexin par la croix pâtée du Vexin. C'est une région dont il s'est occupé, il a eu des responsabilités. Ensuite, en quatrième symbole, il y a eu le Dracar, car il avait une maison à Saint-Valahougue, en Normandie, donc c'est une région du cœur pour lui. En cinquième, la Malachite, qui représentait l'écologie. Et enfin, une devise, Beatus Laborans, je travaille dans la joie.
Les six symboles que tu as placés sur cette épée, ils ne sont pas tous sur la garde.
J'ai rien mis sur la lame. Elle est très pure, cette épée. Elle est vraiment très sobre, elle est très monochrome. C'est de l'argent, c'est une poignée qui est un cristal de quartz transparent, très pur. Jacques Dupaquet, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est un grand démographe. Il avait fait l'encyclopédie de la démographie française en 4 volumes, de la préhistoire à nos jours.
Et donc, ça se traduisait comment alors ?
La démographie ?
Oui, dans ton épée.
Eh bien, c'est par des mouvements d'argent qui sont polis ou mat. Pour moi, c'était les différentes peuplades, différents villages, des gens qui bougeaient, qui, avec le temps, qui évoluaient. Donc, il y avait des grands, des fins, des mat, des polis. Toute une circulation de mouvements, de motifs en argent.
Et la malachite, tu l'as mis où ? Et la croix pâtée,
la croix pâtée. Alors, en fait, tous ces symboles, je les ai mis dans des cercles. C'était vraiment dans l'esprit de l'époque. Je faisais tout un travail sur le bijou qui s'appelait Galaxie, sur le thème des cercles transpercés. Voilà.
L'épée, c'est bien sûr le corps de l'épée, il y a la garde, et puis il y a le fourreau.
Et la lame.
Et la lame. Là, le travail de symbole dont tu parles, il est tout autour de la garde.
Oui, sur cette épée, tout est recentré autour de la garde, tout à fait. Il n'y a rien sur la lame. Et sur le bas du fourreau, le fourreau est en cuir noir, j'y ai posé un motif en argent avec différents mouvements d'argent que l'on retrouve sur la garde de l'épée.
Alors, on va aborder la deuxième. C'était pour quel académicien ?
Alors, c'est pour Pascal Horry, qui est un historien français. Et Pascal Horry m'a téléphoné un jour pour venir choisir une bague pour son épouse. Son épouse s'appelle Anne.
Comme moi, nanana.
Voilà. Et donc, il est venu au magasin un jour. Donc, on avait pris rendez-vous et je commence à sortir quelques modèles. Et ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il me demande, mais quel est le nom de tel modèle ? Pourquoi ce nom ? Et la signification ? Pourquoi la signification ? Et donc, je lui dis, mais c'est incroyable, personne n'avait fait ça jusqu'à maintenant. Tu demandes le nom d'un modèle, mais après, tu ne demandes pas la signification. Sauf que Pascal Horry voulait savoir la signification du nom. Comme cette bague Swirl, qu'il a pris dans les mains et qu'il a dit, mais Swirl, Swirl. Puis il a fait un mouvement de la main en spirale, comme ça, qui partait vers l'air. Et je trouvais ça très, très, très drôle. Enfin, c'était très sympathique. Et donc, on a convenu d'une bague. C'était une bague branche que je lui ai réalisée. Il rentre chez lui et il apprend le jour même qu'il est pris à l'Académie française. Enfin, il est nommé au premier tour, un truc incroyable. Et donc, en rentrant chez lui, il a un message sur son répondeur. Une amie lui dit « J'ai appris que tu es nommé à l'Académie française. J'ai la personne pour toi pour faire l'épée. C'est Thierry Vendôme. » Et il sortait de chez moi. Et donc, le lendemain, son épouse vient me voir et m'apprend la bonne nouvelle. Elle me dit « Mais est-ce que vous faites vous-même des épées ?» Alors là, mes cheveux sont dressés. J'étais tout excité, tout énervé. C'était formidable. J'allais faire une épée. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait d'épée. C'est un truc incroyable. J'ai travaillé, j'ai dessiné. Le soir, je rentrais à la maison, je dessinais sans avoir les symboles. Puis un jour, il est venu, il m'a donné la liste de ses symboles et je me suis remis à dessiner tous les soirs. Je prenais des calques, je dessinais, je mettais un papier, je mets un calque par-dessus, j'améliorais. Et mon épouse était dans mon dos et me dit « Mais c'est incroyable ! Plus personne travaille comme toi avec le calque. Aujourd'hui, tout le monde travaille sur ordinateur. Et toi, je te vois encore travailler à l'ancienne avec tes calques. Elle était émerveillée de me voir encore, je ne sais pas, mais travailler de cette façon. »
Donc finalement, tu en avais fait combien ?
J'en ai une bonne quinzaine, vingtaine. J'ai vraiment pas mal travaillé sur ce projet qui m'a vraiment plu. C'était pas simple parce que, en fait, il m'a donné 7 symboles à peu près, mais tellement important, très, très fort, qu'il fallait faire harmoniser tout ça en une pièce, c'était pas évident. Alors écoute, je vais te dire la liste des symboles. Donc, il y a la gidouille rayonnante, parce que je l'ai fait rayonner. C'est une forme en spirale. Et la gidouille, c'est le symbole collège de pataphysique, parce que notre Pascal Horry est officier du collège de pataphysique, les pataphysiciens. C'est en fait une académie parallèle à l'Académie française qui regroupe des intellectuels, mais c'est assez farfelu comme idée. Enfin, je veux dire, tu as des gens comme Boris Vian. Là, Boris Vian a fait venir Henri Salvador. Enfin, tu as des gens du monde de l'art, des écrivains de différents domaines, mais toujours d'un esprit assez coquin, assez rigolo. Voilà. Donc, la gidouille, qui est leur symbole, je l'ai réalisée, donc cette spirale, et je m'en suis servi pour faire cette garde qui part comme ça d'une façon dynamique en l'air. Et en fait, je me souvenais aussi de ce mouvement de la main que Pascal Horry avait fait pour cette back swirl, où il partait avec sa main en l'air. Et j'ai repris ce mouvement de sa main. Tout ça, ça m'avait inspiré, cette garde d'épée. Le deuxième symbole sont les empreintes digitales de son épouse Anne et de ses 4 enfants que j'ai repris et gravé sur la chape de la garde. C'est la partie qui se retrouve sur la lame, en fait, qui tient la lame. J'ai travaillé sur une technique que je fais pour mes alliances, c'est-à-dire que je prends les empreintes de doigts de mes clients, les empreintes digitales, et je les transforme en alliances.
Et tu les graves?
Et je les grave dans l'or. Là, c'était de l'argent. Donc, le troisième symbole, le tricolore français, incarné par le choix des matières, lapis-lazuli, donc la poignée, elle fait le bleu, le blanc, c'est l'argent, et le rouge, c'est le jaspe rouge. Voilà. Alors, pourquoi le tricolore français? Parce que Pascal Horry a beaucoup travaillé sur la nation, sur le thème de la France, sur des différentes époques sombres ou plus joyeuses, comme les expositions universelles. Il a travaillé aussi sur la collaboration pendant la guerre. Il a travaillé sur un dictionnaire des étrangers qui font la France. Puis aussi, il fait rentrer les gens au Panthéon, comme Joséphine Baker, il y a deux, trois ans, il s'est occupé de l'organisation pour l'entrée au Panthéon. Et là, il s'est occupé dernièrement de Missak Manouchian. Moi, ça m'a touché personnellement. Je ne sais pas si tu le sais, mais Manouchian était proche de ma famille. Missak Manouchian venait souvent chez mes grands-parents parce qu'il n'avait plus de famille, il était orphelin, et il avait besoin de retrouver un esprit familial. Et donc, il s'entourait de ma famille, de mon arrière-grand-mère, de mes grands-parents. Il avait ma mère sur les genoux et il passait des soirées merveilleuses. Et mon grand-père, qui était son grand ami, lui disait « Mais pourquoi tu restes toujours à discuter avec ma mère ?» Et il disait « Mais Milan, tu sais pas, moi je n'ai pas de famille. » Et là, j'ai l'impression d'avoir une famille. Et donc, c'est très touchant tout ça. Et aujourd'hui, son entrée au Panthéon, pour moi, était vraiment très, très important.
Et en plus, faite par l'académicien qui t'avait commandé l'épée.
Oui, le monde est petit.
Et donc, c'est pour ça que tu respectes ce symbole tricolore. Et donc, tu l'as matérialisé. Comment? Tu as mis une pierre bleu, blanc, rouge?
Alors, ce tricolore, je vais te dire, et je l'ai voulu qu'il soit très visible. C'est-à-dire qu'on soit à 10 mètres, et bien on voit que sur cette épée, ben ça fait le bleu, blanc, rouge français. Je voulais qu'il crache ce bleu, blanc, rouge. Je voulais qu'il soit fort. Et donc, la poignée en lapis bleu est la partie très importante de l'épée. D'ailleurs, ça m'a créé pas mal de soucis parce qu'il y a un problème de poids. Il ne fallait pas qu'elle soit trop lourde, cette épée. Franchement, le lapis-lazuli est une matière lourde. Ce n'était pas évident. Ce tricolore prend en fait toute l'épée. C'est-à-dire qu'aussi bien, il y a une partie rouge qui est sur le fourreau, le jaspe. La partie d'argent, elle est en dessous de la poignée, sur cette partie qui fait le lien entre la lame et la poignée, qui s'appelle la chape. Le tricolore est vraiment très visible. Donc, en quatrième symbole, l'allégorie de l'histoire tenant un phylactère. Le phylactère, en fait, c'est l'ancêtre de la bulle de bande dessinée. En hommage actif de Pascal Horry pour le 9e art, la bande dessinée. Le dessin, on le tient de Catherine Meurice, qui est aussi académicienne et qui est une dessinatrice de l'équipe de Charlie Hebdo. Et donc, c'est elle qui a dessiné cette allégorie qui n'était pas évident du tout pour moi de le mettre dans mon style de mon épée. Mais bon, je pense y être arrivé par une découpe dans l'argent. Et ça fait une dentelle où on voit le rouge du jaspe apparaître en dessous. En cinquième symbole, sur la lame de l'épée, dans l'acier est gravée cette phrase « Nulla dies sine linea », qui veut dire « pas un jour sans une ligne ». Et donc, c'est en hommage à son père. Voilà. Le sixième symbole est le style art déco que j'ai représenté par le galucha sur le fourreau de l'épée.
Il est de quelle couleur ton galucha?
Bien noir, il est très sombre, voilà. Et je voudrais rajouter que j'ai été vraiment aidé par quelques artisans C'est la personne qui a fait le fourreau, Dominique Imbert, qui a été vraiment d'une aide formidable pour un travail incroyable. Placer ce galucha qui n'est pas évident à travailler, et donc il a fait un très 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 beau travail. Ensuite, j'ai eu l'aide aussi d'une personne qui compte beaucoup pour moi, c'est André Arcos, qui est le joaillier avec qui j'ai travaillé chez mon père, puisque c'était le chef d'atelier et il a été mon maître d'apprentissage. Donc, tout au long de la réalisation de cette épée pour Pascal Horry, je faisais appel à lui, et il me conseillait, tu devrais faire ci, tu devrais ça, n'oubliez pas ça, et tout. J'avais vraiment beaucoup de chance de l'avoir, voilà.
Alors, comment tu l'as fait connaître ?
Mais il y a une histoire incroyable, c'est qu'un jour, Marie Vallanet, présidente de l'école des arts joailliers, rentre au magasin, et je lui dis, Marie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai la réalisation d'une épée à faire, celle de Pascal Horry. Et je lui montre les quelques dessins. Et là, elle prend son téléphone et d'un ton sérieux, elle dit « Bon, demain, réunion, on doit réfléchir pour la réalisation d'un film sur une épée d'académicien, celle que Thierry Vendôme va réaliser pour Pascal Horry. » Et elle m'a financé comme ça un film par l'équipe de Beaux-Arts Magazine qui est venue donc au magasin pendant plusieurs jours. À me demander de faire 5-6 fois les mêmes gestes avec différents objectifs. Ça a été assez technique et le résultat est visible aujourd'hui sur YouTube.
Oh, trop fort !
Voilà.
Donc en fait, cette épée que tu as bichonnée, inventée, créée et qui un jour est partie comme ça, eh bien, tu peux continuer à la voir en film.
Oui.
Et puis, je suppose que tu la vois aussi à la télé.
Alors, je surveille mon Pascal Horry par Instagram, en fait. Je regarde sur le site de l'Institut de France où on voit toutes les cérémonies. Je vois Pascal avec l'épée, qu'il le tient vraiment avec beaucoup de fierté. J'ai beaucoup de plaisir à le voir tenir cette épée, bien sûr.
Malgré son poids.
Malgré son poids.
Parce que finalement, elle fait 1,8 kg, tu m'as dit, non ?
1,6 kg. Tu l'as un peu grossi. Oui, j'ai essayé de baisser son poids au maximum, mais je n'ai pas pu faire plus. Hélas, elle fait 1,6 kg, ce qui est lourd. En tout cas, c'est une belle aventure.
Donc, on va passer à la troisième épée. Tu en feras d'autres, bien sûr. Cette troisième épée, c'est la plus récente et c'est celle de...
Philippe Walter. Un grand chimiste français. Et c'est un scientifique, c'est un homme incroyable qui passe de l'archéologie à... Il va décortiquer la Joconde, aussi bien de Marthe Krotko, le peintre contemporain. Il agit sur différents secteurs du monde de notre époque. Voilà, il a un métier de scientifique, d'archéologue, de chimiste. Et donc, avec ça, c'était très intéressant de travailler sur une épée, bien sûr.
Comme c'est le scientifique de l'art,
voilà.
C'était vraiment la croisée des chemins, là.
Oui.
Alors, comment est-il arrivé chez toi ?
Alors, c'est Sophie Lefebvre que, je pense, est venue déjà derrière ton micro pour une émission sur Jean Vendôme. Donc, Sophie, qui est une très bonne amie, est venue avec Philippe Walter et ont collaboré ensemble au centre de recherche des musées nationaux. Sophie Lefebvre était chargée de la communication. Ils sont venus un jour accompagnés d'une épée, qui est en fait une rapière du XVIe siècle auquel tenait Philippe Walter. Et il fallait, à partir de cette épée, je puisse créer quelque chose de contemporain dessus, tout en gardant le côté XVIe siècle de l'épée. Donc il y avait une conversation entre deux mondes, le monde contemporain et le monde du XVIe siècle.
Donc c'est vraiment une conversation, comme tu dis, qui est vraiment logique avec l'académicien et son métier. Mais pour toi, c'était un nouveau défi, encore
ah
une
oui,
fois.
Ah oui, complètement, oui. Mais quelque part, je pensais à la philosophie de mon travail en voyant cette épée du XVIe siècle, parce que je travaille beaucoup les aciers rouillés qui ont une histoire, qui ont un vécu, que je vais lier à mon esprit contemporain, précieux, joaillerie. Aussi bien, ça a été les monnaies chinoises, les vieilles faïences, que j'ai récupéré. Donc, j'aime bien lier déjà une histoire vécue à quelque chose de contemporain. Donc, quelque part, je le voyais comme un ami, cette épée du XVIe siècle. Il y avait une esthétique forte qui était présente, avec des courbes en acier. C'était très beau, très puissant. Et ça m'a vraiment plu de démarrer cette aventure avec Philippe Walter.
Si je me souviens bien, cette rapière, puisque c'est le nom de l'épée du XVIe siècle, elle a une lame extrêmement fine et d'un seul coup, il y a toute une espèce de mouvement, de une rotation envolée. Des volutes qui sont autour de la garde.
Complètement.
Et donc,
oui, oui.
Du coup, ça a déjà toute une esthétique
très forte,
très intéressante, très légère, qui pourrait être à la fois aérienne. Alors, c'est toujours des cercles, mais ce n'est pas du tout le style de ta première épée, même s'il y a aussi des volutes.
Oui, oui.
Ça pourrait être un croisement avec ce qu'on pourrait appeler presque l'art nouveau, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, combien tu as fait de dessins, Lady Ntou ?
J'en ai fait une bonne dizaine aussi, c'est pareil, oui, effectivement. Je m'en suis servi d'un plus, quelque part, de cette forme biscornue, pas sourcil, je ne sais pas. Non, mais c'était quand même une très belle esthétique.
Donc, lui, il avait combien de symboles ?
Alors, lui, il en a sept symboles. Donc, il y a l'ivoire de mammouth, qui est présent sur la forme d'un prisme, qui viennent se fondre dans les orgues dorés. Donc, c'est le lien avec la préhistoire. C'est lui qui m'a apporté ce morceau de défense de mammouth sur lequel j'ai fait des découpes. Un autre symbole, il y a la sculpture des cristaux de quartz taillés par le lapidaire René Ruche, mon lapidaire, avec qui je travaille depuis une trentaine d'années. Est une évocation donc, des cristaux de l'orionite. Ce cristal, la laurionite, c'est un cristal qui se limite à 1 mm de grandeur. Ça se voit avec des loupes, avec des binoculaires. Tu vois pas ça à l'œil nu. C'est des cristaux que l'on retrouve dans la peinture ancienne. Tu vois. Et avec ces cristaux, pour la représenter, j'ai fait des recherches. J'ai fait tailler des cristaux de quartz dans la forme de ces cristaux de laurionite, mais dans des dimensions beaucoup plus imposantes. Et comme c'est fragile, je les ai mis à l'intérieur de la garde et elles sont protégées par les mouvements du XVIe siècle, ces fameux mouvements en acier qui servent de pare-choc quelque part et ça marche très bien ensemble. Ensuite, il y a la gravure sur le vermeil. Sur le fourreau, j'ai repris avec l'écriture de Léonard de Vinci ces quatre mots « materia, coloris, ombra et lumé ». Donc matériaux, couleurs, ombre et lumière. Je les ai repris sur le vermeil qui recouvre le fourreau et c'est gravé avec l'écriture de Léonard de Vinci. Ça, c'est, l'académicien souhaitait que cela soit réalisé. Enfin, en cinquième symbole, la peinture noire sur ce même fourreau, réalisé par toujours Dominique Imbert, c'est une peinture innovante qui capte à 99,4% la lumière. C'est le noir absolu. Cette couleur est totalement nouvelle.
Du coup, ça fait disparaître les formes.
Voilà. T'as l'impression d'un fourreau en velours noir. C'est assez étonnant. Et ce qui est amusant, c'est que c'est très fragile. Ce qui est amusant, c'est que lui est venu avec la peinture, avec son pistolet à peinture. Et dans le magasin, je voyais mon académicien en train de repeindre son fourreau juste avant la cérémonie le lendemain. Et enfin, en sixième symbole, assez important parce que novateur, je pense, Une bague qui vient s'installer dans l'épée. En fait, la bague, elle s'introduit comme un élément de l'épée. Et la bague est réalisée en hommage à son épouse. C'est pour le rappel de la famille. C'est une bague qui se retire. Son épouse pourra la porter. Et sur la bague, rien de plus qu'une morganite. Pourquoi une morganite ? Sa fille s'appelle Morgane. Donc, tout a un rapport. Voilà.
Donc en fait, ces femmes, si je peux dire ça, sont symbolisées par cette bague qui se met sur la garde et qui saute, qui s'enlève.
Voilà.
Et tu es le premier joaillier à avoir fait la première épée avec bague amovible.
Oui, j'en connais pas d'autres en tout cas. Donc ça fait bague et amovible, elle fait pendantif aussi. Ça fait bague et pendantif. Tu portes,
oui, comme d'habitude, chez toi, comme, ça
voilà,
s'articule.
J'aime bien ça. Que l'objet fasse plusieurs fonctions, oui.
L'or de l'anneau est complètement travaillé dans cet or un peu sauvage que tu aimes
voilà,
bien.
Voilà, que j'appelle et écorce.
De loin, on dirait justement cette écorce d'or sur un rocher travaillé par miracle, en fait.
C'est sûr, parce qu'en fait, sur l'épée, la rapière du XVIe siècle, à l'origine, ce qui terminait cette épée, on appelle ça le pommeau. Et le pommeau était en forme de gland. Je trouvais ça très moche. Et j'étais très content de le recouvrir par ce motif d'écorce. Et cette bague, ça faisait une finition beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante. Et ça fonctionnait avec le fourreau, l'esthétique du fourreau. Donc, ça fait une continuité qui est plutôt assez réussie, je pense.
Maintenant que tu as réalisé une épée pour laquelle on t'a préféré à ton papa. Une épée pour laquelle tu as mis des éléments de bande dessinée. Ce qui est quand même extraordinaire pour le travail de Thierry Bonhomme. Ce n'est pas ton habitude. Une épée dans laquelle tu as créé la seule bague, l'amovible des épées d'académiciens. quel serait donc ton rêve maintenant pour créer comme épée d'académicien?
Bah moi, j'aimerais bien, vraiment, j'aimerais travailler pour une femme académicienne. Je trouve ça formidable. Il y a tellement peu d'académiciennes, trop peu aujourd'hui. Il faut vraiment que les femmes puissent être plus nombreuses à l'académie et faire une épée. J'aimerais vraiment faire un travail sur le vitrail de couleurs, de minéraux, de quelque chose de beaucoup plus coloré.
Dans ton vitrail, tu mettrais quoi?
Des tourmalines, des fleurs d'améthyste, plein de minéraux, des opales, des choses très vives, un feu d'artifice de couleurs, bien sûr.
Eh bien, on va te le souhaiter.
Merci.
Merci beaucoup, Thierry, pour cette interview sur les épées d'académicien.
Merci, Anne. Merci.
À bientôt. Se termine cette histoire de bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Nos prochains rendez-vous seront sur le podcast thématique « Il était une fois le bijou » en alternance avec le podcast « Brillante » et ce podcast « Le bijou comme un bisou ». Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous, comme un bijou.